Étude sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je connais Jésus.
Bonjour mes chers bien-aimés en Christ, merci pour votre fidélité à cette émission. Je rends grâce à Dieu qui nous a donné en ce jour du Seigneur d'avoir la vie en Jésus-Christ, le mouvement et l'être. Oui, cet après-midi nous sommes encore présents sur cette antenne pour étudier un cantique. Une chanson qui est particulière, dont les paroles sont particulières, mais bien avant d'en arriver là, nous allons ensemble vous faire savoir que ce chant contient des paroles particulières. Je l'ai dit tantôt, c'est vrai, et je vous laisse avec la chanson qui nous vient d'une dame. Je ne vais pas vous donner le nom à présent, présentement, actuellement même, mais écoutez la chanson et nous allons revenir tout à l'heure.
Qui demeure et qui meurt dès la
écouter avec moi le cantique, ou du moins la chanson que nous allons étudier dans l'émission de ce jour avec l'autre Laurent. Il est toujours là, présent, fidèle à son poste, pour commenter les paroles du chant que nous choisissons dans cette émission pour étude. Alors, on va se tourner vers lui, l'autre Laurent. Bonjour.
Bonjour, Olivier.
Alors, as-tu passé une très bonne semaine?
Oui, je rends grâce à Dieu pour ça.
D'accord. Bien. Avant d'entamer l'émission proprement dite, et l'autre Laurent, je voudrais bien te poser une question.
Oui.
Est-ce qu'il y a dans ce monde quelque chose qui demeure et ne meurt jamais?
Quelque chose qui demeure, hein,
et ne meurt jamais. Et ne meurt jamais.
La parole de Dieu,
oui,
demeure, parce que c'est cette parole qui est appelée à l'existence. Le monde visible et invisible, mmh, le monde microscopique et macroscopique,
oui,
et elle ne passera pas parce que elle est éternelle. C'est la parole du Dieu éternel.
D'accord.
Elle est éternelle.
D'accord. Mmh. Très bien. Alors, tu es d'avis avec la chanson?
Tu as écouté, bien sûr.
Tu as écouté la chanson avec moi. Donc, ça veut dire que tu as le même point de vue que la dame et celui qui nous a interprété cette chanson, du moins celle-là qui nous a interprété la chanson, c'est Sophie Harbour, que tu connais très bien. Sophie Harbour, je crois qu'elle fait partie de la famille Harbour.
Oui.
Et qui est-elle concrètement?
Bon, disons qu'elle est née au sein d'une famille francophone, québécoise.
Oui.
Elle est la deuxième d'une famille de trois enfants.
Mm-hmm.
Alors, très jeune, elle a démontré ses talents pour la musique et la chanson. Et au début de son adolescence, elle avait commencé par adapter les cantiques chantés à l'église. Et elle s'intéressait beaucoup aux tests de blessés. À l'âge de 14 ans, qu'elle a écrit sa première composition sur un air traditionnel européen, hein, comme le rythme que vous venez de suivre, et a débuté l'enregistrement du premier album de la famille Harbour. Donc, vous voyez que c'est par son biais que la famille Harbour s'est fait connaître.
D'accord.
Elle était assistée de sa sœur aînée, Martine, et de son frère cadet, Jean, et du papa réel. Hein. Mmh. Donc, la famille a commencé à chanter, à participer à des concerts ou à des ralliements, des regroupements au Québec, en Ontario, et même à la Martinique. Hein. Au jour d'aujourd'hui, les 9 albums de la famille ont parcouru, si vous permettez l'expression, les 5 continents et ont été vendus à plus de 72 000 copies hein, entre 1985 et 2010. En plus de la musique, elle est une dentiste. Ah. Donc, elle a le doctorat, oui.
D'accord.
Elle est une dentiste, elle a son cabinet.
Mmh.
Et en 1999, elle se lance dans son solo avec un album intitulé « Ce qui demeure », la chanson que nous allons écouter et étudier.
Mmh.
Et par là, elle espérait apporter au public de l'encouragement qu'elle a reçu elle-même dans son parcours de chrétienne, et aujourd'hui elle a encore son actif un nouvel album intitulé Tu connais mon nom. D'accord. Donc malgré que le temps est passé, le message de ces chansons n'ont pas changé, hein. Elle est toujours, ces messages sont imbibés d'expérience et de sagesse, et cela nous ramène toujours au cheminement personnel hein, de la vie chrétienne, la foi en Jésus-Christ. Voilà.
Très bien. Donc on sent par là que c'est la dame qui demeure la seule membre de famille qui continue par chanter pour le Seigneur.
Oui.
Et le deuxième album, c'est quoi? Tu connais mon nom.
Oui, tu connais mon nom.
J'ai l'impression que elle vécut son expérience, son vécu avec le Seigneur au travers de ses chants.
Oui, bien sûr. Ce devait être normalement le témoignage que nous rendons à l'œuvre que Christ a accomplie dans nos vies. C'est par ce biais. Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie?
Très bien.
Qu'est-ce qu'il a fait de ma vie? Et j'ai la responsabilité de dire aux gens autour de moi ce que Christ a fait dans ma vie et a fait de ma vie. Mmh. C'est ça le message de l'évangile. C'est il faut que nous soyons des preuves tangibles de la résurrection de Jésus-Christ. Ouais. Parce que ce qu'il faisait dans, dans les évangiles, il continue de le faire. La preuve X, Y, Z a été transformée. Mmh. C'est ça. Mmh. Si quelqu'un n'a pas un témoignage de cette sorte, le témoignage de cette sorte, je ne suis pas sûr que la personne soit réellement convertie.
Mmh. Mmh. Très bien. On revient à la chanson « Ce qui demeure ». On va l'écouter et après on va vous servir les paroles de cette chanson interprétée par Sophie Harbour. Écoutez avec moi « Ce qui demeure » de Sophie Harbour. Ce qui demeure est composé d'un refrain et de trois couplets. Je vais vous donner lecture de ces paroles. Ce qui demeure et qui ne meurt, c'est la parole du Seigneur. Ce qui demeure et qui ne meurt, c'est la parole du Seigneur. Elle demeure éternellement. Là, c'est le refrain. Le premier couplet, Jésus possède la vérité. Il est Dieu, le Verbe incarné. À la croix, à Jérusalem, il prouva à quel point il nous aime. Le deuxième couplet, Jésus est bien ressuscité. Ésaïe l'avait annoncé, maintenant vainqueur de la mort, ce Jésus transformera nos cœurs. Je la sais, transformera nos cœurs, excusez-moi. Le troisième couplet, le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront encore une fois, mais ces paroles ne passeront jamais, 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 non, non. Voilà les paroles de la chanson. Alors, l'autre Laurent, ce qui demeure et qui ne meurt est la parole du Seigneur. Pourquoi est-ce la parole du Seigneur et non la parole d'un autre?
D'accord. Au cours d'une émission, je crois, en l'occurrence, l'émission précédente, tu avais donné le test de Exode 32, verset 15, où là nous voyons Dieu qui a remis à Moïse les deux tables de la loi et qui a écrit sur les tables, au recto et au verso, ce qu'il avait dit, les 10 paroles, comme on les appelle, le décalogue. D'accord? Et Moïse n'a fait que réceptionner les tables de la loi et il est venu vers le peuple avec les tables de la loi. Donc, ce qui prouve que Moïse est un porte-parole de Dieu. Et par ricochet, tous ceux qui prennent la Bible ou parlent quelque part au nom de Christ sont des porte-paroles de Dieu. Nous tous, à quelque niveau que ce soit, nous sommes des porte-paroles de Dieu. Et un porte-parole a pour mission de transmettre fidèlement ce qui lui a été dit. Et donc, quand vous lisez les Écritures, vous allez voir que c'est de cette manière que Dieu procède, il parle, et puis la parole est consignée après. D'accord? C'est le principe de la dispensation de la parole. Les prophètes parlaient, puis leurs paroles inspirées sont écrites et conservées. Et c'est l'ensemble de tout cela que l'on appelle aujourd'hui la Bible, la parole de Dieu. Donc, les prophètes ont parlé, non pas d'eux-mêmes, mais sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Dans Psaume 119, le verset 89, il est dit, « A toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Tu vois, la parole est éternelle. Et cette parole est le canal par lequel la création est parvenue à l'existence. Quand l'Écriture dit Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc cette parole précède la création. D'accord? Et c'est la parole de Dieu. Maintenant, dans l'analyse que nous sommes en train de faire, Deutéronome 18, verset 18, il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Dieu annonçait la venue du Messie. Un prophète comme toi. C'est quoi un prophète? Un prophète, c'est un porte-parole. Le prophète dit ce que Dieu dit. Si Dieu n'a rien dit, le prophète se tait. D'accord? Un prophète comme toi, du milieu de tes frères. D'accord? Et il dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche.
D'accord? En parlant toujours du prophète.
Ou du prophète. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Vous voyez, ça c'est ce que Dieu a dit du Messie. Alors, quand le Messie vient, dans Matthieu chapitre 24, le verset 35, quand il donnait le décliné des événements des derniers temps qui vont précéder sa venue pour instaurer le règne millénaire, alors, il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Aucun prophète ne peut de lui-même dire ça, si ce n'est sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu. Vous suivez? Suivez le raisonnement, vous allez voir. Jean chapitre 14, verset 10, Jésus dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Qu'est-ce que Moïse avait dit? Je mettrai mes paroles dans sa bouche. C'est ça, non? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Ça confirme ce que Moïse avait dit. Donc, c'est les paroles de Dieu. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Je vous ai déjà dit que les paroles précèdent les œuvres. Il parle et il agit. Il parle et il agit. Et Jésus est en train de confirmer ce que Moïse avait dit à son sujet. Donc, la parole du Dieu éternel est éternelle et ne peut cesser d'être. Et c'est pour cela que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Esprit et vie.
Il a dit même les paroles que je vous ai dites.
C'est ça. Son esprit, ses paroles sont esprit et vie. Vie, Zoé, la vie, si on doit le dire, pardonnez l'expression, la vie non créée. Quand on parle de la vie, Zoé, la vie de Dieu, la vie éternelle. Donc les paroles sont esprit et vie parce que Dieu même est esprit. D'accord? Donc, cette parole a amené à l'existence la création invisible, visible, microscopique, macroscopique et tout ce qui échappe à l'homme. C'est pour cela d'ailleurs que Dieu, à plusieurs reprises, va dire à tous ceux qui le représentent de faire attention. Proverbe chapitre 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Donc, ce sera une véritable aventure pour quelqu'un que de se permettre de dire au nom de Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Ça, c'est un. Deux, ce sera vraiment de l'effronterie pour quelqu'un d'aller jusqu'à ajouter à la parole écrite ce que Dieu n'a pas, ce que Dieu n'a pas dit. Et le dernier livre de la Bible nous dit cela, Apocalypse 22, verset 18, pour montrer que c'est la parole de Dieu et non celle des hommes. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera de sa part de l'arbre de vie, l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc, vous voyez, un discours humain, quelle que soit la prouesse de celui qui fait le discours, sa prouesse dans l'art oratoire, la profondeur des pensées d'un mystique, d'un penseur, d'un philosophe. Après tout, tout ça là, c'est les paroles des êtres humains qu'il ne faut pas confondre avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir sur Internet, il y a toute une fleuritude d'expressions, de pensées que les gens aiment à faire passer et autres. Parfois, même certains, quand tu les lis, tu dis, ah, mais vraiment, c'est vraiment profond. Mais ça là, c'est la parole des hommes. Elle ne tiendra pas devant la parole de Dieu. Et donc, c'est pour cela que l'auteur vient dire, cette parole demeure, elle est éternelle. Et je suis à 100% d'accord avec cette déclaration qu'elle a faite.
Très bien. C'est compréhensible. Quand nous examinons la structure de la chanson, ou du moins quand j'examine la structure de la chanson, je constate que dans les couplets 1 et 2, il est fait mention de Jésus. On dit Jésus possède la vérité, et ensuite il est Dieu, le Verbe incarné à la croix à Jérusalem, il prouva à quel point il nous aime. Le couplet 2 rajoute, Jésus est bien ressuscité, vous voyez, donc le nom de Jésus intervient. Alors je voudrais savoir, pourquoi ce basculement de la parole du Seigneur à Jésus?
Okay,
parce qu'on dit que c'est la parole qui demeure, pourquoi maintenant on bascule vers Jésus?
Ok, d'accord. Et là, même dans le décliné, elle a dit quelque part, verset deuxième...
couplet.
Oui, deuxième vers, Esaïe l'avait annoncé.
Oui, alors, Esaïe
pourquoi
l'avait
tout
annoncé,
ceci? On va commencer par le commencement, et dit Jésus possède la vérité. Là, on va marquer une pause pour dire Jésus est la vérité.
Il possède la vérité. Il est la vérité.
Il est la vérité.
Il possède et il est aussi.
Il est la vérité.
Il est la vérité.
D'accord. Il est l'incarnation de la vérité. Maintenant, elle a raison en disant Jésus c'est le Verbe incarné. Il est Dieu. Pourquoi? Lorsque Moïse a voulu voir Dieu, parce que tu vois dans le dialogue qu'il y avait eu entre Moïse et Dieu, quand il a dit je veux voir ta gloire, quand on le lit à première vue, on ne saura pas qu'en réalité il voulait voir Dieu face à face.
C'est ce qu'il voulait.
C'était
son intention première.
Bien sûr, bien sûr. Donc Dieu dit,
tu ne peux pas.
Oui, je sais ce que tu veux, mais c'est impossible.
Ok.
Pourquoi? Parce que dans la position où il était avec l'ADN d'Adam, il va mourir.
Ok.
Non pas que Dieu voulait le tuer, non. C'est-à-dire que l'émanation de la gloire de Dieu est insupportable pour l'homme dans son état actuel. C'est pour cela que c'est en esprit qu'on reçoit les révélations. Moïse, lui, voulait voir la personne face à face.
C'était impossible.
C'est impossible. Dieu dit, tu ne peux pas voir ma face et vivre, tu vas mourir. D'accord? Et donc, on commence par là. Maintenant, quand on évolue un peu dans Jean chapitre 1, que nous connaissons tous, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. D'accord? Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc là, dans ça, nous voyons que le Dieu invisible, le Dieu invisible va se rendre visible dans la personne de Jésus. Parce qu'il dit, personne n'a jamais vu Dieu, ce qui est vrai, d'accord? Moïse ne l'a pas vu, face à face, d'accord? Mais il a un aperçu de qui il est. Le Fils qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Quand on dit il est dans le sein, ça veut dire quoi? Si je me tais, ma parole est à moi. Mais quand je parle, je libère cette parole, d'accord? Donc la parole est en Dieu, et la parole est Dieu. Ce n'est pas un sous-produit de Dieu. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. C'est pour cela que si on veut utiliser le cerveau pour comprendre, on sera heurté. Et là, les gens vont commencer par nager en pleine confusion. Est-ce qu'il y a trois dieux? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a ça? Non, Dieu est unique. D'accord? C'est pour cela que dans le schéma, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. D'accord? C'est ce Dieu un-là qui vient dans la personne de Jésus. C'est quand il est venu sur terre que la parole a pris le nom de Jésus. C'est pourquoi il a dit, la parole a été faite chair. Quand on dit quelque chose a été faite chair, ça veut dire que avant qu'elle ne soit faite chair, cette chose devait avoir une autre vie. C'est-à-dire que la parole esprit souffle. Le souffle est devenu visible. Qu'on peut toucher, qu'on peut interagir avec Dieu dans la personne de Jésus. Donc c'est pour cela justement que quand l'ange est venu vers Marie, il lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Si on lui demande comment elle a fait pour avoir, elle ne peut pas comprendre. C'est un mystère. D'accord? Et maintenant, quand on progresse, Hébreux chapitre 10, verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps, incarnation. D'accord? La parole maintenant a pris corps, okay. comme on peut le dire. Donc c'est la révélation de l'esprit.
Incarné.
Tu vois? Et quand on analyse l'écriture, vous allez voir que c'est grâce à la révélation de l'esprit que Paul, un pharisien, a pu confesser la divinité de Jésus. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il dira plus tard que lui, il était un blasphémateur. Parce que quand il a rencontré sur la route de Damas, il s'est rendu compte que c'est la personne ça. Ça, c'est Dieu, ça. Et Thomas, quand Thomas l'a vu, dans la réaction de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, c'est quand notre esprit capte ce que Dieu nous met à disposition, que nous connaissons, que nous savons, que nous avons la conviction de ce dont nous parlons. D'accord? Colossiens chapitre 1, verset 15, il est l'image. Ce Jésus est l'image du Dieu invisible. Tu vois, Paul dira plusieurs reprises, Dieu habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Maintenant, comment on peut interagir avec Dieu? La parole sort de lui, prend corps et devient Jésus. On l'appelle Jésus, c'est le nom qu'on lui a donné. Et donc, là, par ce biais, il peut maintenant interagir avec nous. Et c'est justement pour cela qu'il est l'intermédiaire. Parce que quand il se tourne vers nous, homme, il partage notre humanité à l'exception de la chute. Des relents de la chute qu'Adam nous a légués. Il n'a pas ça en lui. D'accord? Quand il se tourne vers le Père, il est tout à fait à l'aise pour se tourner vers le Père. Donc, tu vois, donc il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Et ici, quand on dit le premier-né de la création, c'est là que plusieurs sont confus. Ils ont l'impression que Jésus a été créé premièrement. Non. Ici, là, on est en train de parler de sa prééminence, de sa position suprême. Dans la création, position suprême. D'accord? Quand on dit qu'un élève ou un étudiant est le premier de sa classe, ça ne veut pas dire qu'il était le premier à être inscrit dans la classe. D'accord? Et donc, ils disent qu'en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et voilà pour cela que Paul vous dira, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu est devenu visible. D'accord? Et il a été justifié en esprit. Il a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire.
Très bien. On va souffler en musique en écoutant ce qui demeure de Sophie Arbour avant de poursuivre avec les commentaires qui nous sont servis par l'autre Laurent. On écoute Sophie Arbour.
Ma,
Jésus est bien ressuscité, Esaïe l'avait annoncé. Maintenant vainqueur de la mort, ce Jésus transformera nos cœurs. Oui, l'autre Laurent, même si Jésus est ressuscité, d'ailleurs elle le dit, ça veut dire que Jésus n'a-t-il pas goûté à la mort? Est-ce qu'il n'a pas goûté à la mort? S'il est ressuscité, ça veut dire qu'il est mort.
Bien sûr.
Mais on nous dit dans la chanson que ce qui demeure, c'est la parole du Seigneur qui demeure éternellement.
Oui, bien sûr.
Tu viens d'établir la corrélation entre...
Entre les deux strophes,
oui.
Ce qu'il faut comprendre, hein, quand l'auteur a dit, et Esaïe l'a annoncé,
oui.
C'est-à-dire que Esaïe a parlé et de l'incarnation et de la résurrection.
Ah, d'accord.
Et ça passe... C'est inaperçu pour plusieurs personnes.
Ok. Non, sincèrement, ce que tu dis, je ne l'avais pas perçu comme ça. Pour moi, Esaïe a annoncé sa mort. Hein. C'est juste ça.
Ah oui, d'accord. On va voir dans l'écriture, d'accord.
On y va.
Donc là, oui. Il a annoncé l'incarnation, c'est-à-dire que l'esprit est devenu, a pris corps, d'accord. Et là, Esaïe 7, verset 14, dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra et enfantera un fils.
Oui.
Et on appellera... son nom Emmanuel, d'accord. C'est-à-dire que à ce niveau, c'est un signe parce que c'est contre nature qu'une vierge conçoive sans le contact d'un homme à cette époque reculée, d'accord. On ne parle pas d'insémination ici, et donc c'est un signe. Maintenant, quand Esaïe va aller un peu plus loin pour expliquer en fait la personne, le fils qui est né là, c'est en ce moment dit, c'est profond. Pourquoi? Esaïe 9, verset 6, il dit ceci, un enfant nous est né. Je dis, oui, ben, un enfant est né, il est né. Les enfants naissent, ça on comprend, d'accord? Un fils nous est donné, c'est un don de Dieu.
Pour signifier que c'est un garçon.
Oh oui, la domination reposera sur son épaule. Si on s'arrête là, on dit, ok, peut-être que ce sera un roi.
Oui.
D'accord, jusque-là, pas de problème.
Oui.
Et en temps, j'ouvre une parenthèse pour dire, jusqu'à maintenant, la domination ne repose pas encore sur son épaule. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore introduit son règne millénaire.
D'accord.
Très bien. Et il dit, on l'appellera admirable. Bon, quelqu'un peut dire, oui, mais quand toutes les femmes mettent leurs enfants au monde, on donne de jolis noms, prénoms, des adjectifs et tout cela aux enfants. Maintenant, quand on va avancer, conseiller, ou peut-être qu'il sera un conseiller près d'un roi, par exemple. Mais là, ça va se corser quand il dit Dieu puissant.
Ok.
Le fils qui est né est Dieu puissant.
Déjà en tant qu'enfant né.
Oui.
Dieu puissant.
Dieu puissant, c'est Dieu est venu. Dans le petit garçon qu'on voit là, c'est Dieu.
D'accord.
Tu vois, donc Dieu puissant, Père éternel. Dans l'original, c'est le Père de l'éternité. Prince de la paix. Donc il a annoncé son incarnation. Et quand on lit Esaïe 53... Là, il va parler de 50 aussi, une partie de 50, il va montrer comment on lui a arraché la barbe. D'accord? 52 aussi, il va mettre l'accent sur son visage qui est tuméfié parce que les gens lui donnaient des soufflets, des coups, tout cela. Et dans 53, maintenant, verset 1, il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé, parlant de Christ, s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, tu vois, quand on lit la description qu'Esaïe a faite de la crucifixion, d'avant la crucifixion, de tout ce que les soldats romains lui ont fait là, on voit que il y a une contradiction. Dieu là, Dieu puissant, Père éternel, c'est lui qui subit tout ça là. Et il n'a pas déployé sa puissance divine pour anéantir tout ce monde. Alors maintenant, quand il parle de la résurrection, Esaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, ça veut dire qu'il est mort. D'accord? Il verra une postérité, prolongera ses jours. Il est ressuscité. D'accord? Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est ce qui se passe actuellement. C'est vrai que, à vue humaine, on a l'impression que l'œuvre ne prospère pas. Non? Dans tout ce brouhaha-là, où les faux sont ici et tout cela, Dieu est en train de récolter. Hein? Parce que Christ ne versera pas son sang en vain. D'accord? Il y a des âmes qui naissent authentiquement, de nouveau. Il y a de vrais serviteurs de Dieu, de vraies servantes de Dieu, dans la foulée, dans la mêlée de faux qui sont là, ça et là. L'œuvre de Dieu prospérera entre sa main. Il dit, à cause du travail de son âme. il s'est livré à la croix. Il rassasira ses regards, ça veut dire il est revenu à la vie. Il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leur iniquité. C'est ce qui s'est passé à la croix. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. C'est parce qu'il est ressuscité, d'accord, qu'il est devenu le Christ, d'accord. Et il est maintenant en position, dans la position de souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est la position qu'il a et ça là, c'est différent de ce que Aaron avait, d'accord. Le sacerdoce d'Aaron a pris fin à la croix. C'est fini. On n'a pas besoin de tuer ni un coq, ni un bouc, ni quoi, cabri et tout cela pour obtenir faveur auprès de Dieu. Non. Le sacrifice suprême a été fait à la croix. Donc là, Isaïe a parlé de son incarnation, des souffrances qu'il a connues, de son humiliation, et a parlé de sa résurrection. D'accord? Donc c'est pour cela que de la parole de l'Éternel, où il y a la parole de Dieu, on tombe sur la personne de Jésus. Donc elle a établi le lien et on voit que cette parole éternelle est devenue un être. C'est le Verbe incarné. Et Isaïe présente maintenant ce Verbe incarné. Ce garçon qui est né, ce petit enfant-là que vous voyez, c'est Dieu. C'est pour cela que l'ange est parti dire au berger, aujourd'hui dans la cité de David, est né
un roi.
Christ. Le Seigneur, en grec, Hokurios. Et quand chaque fois qu'on s'attribue, on attribue le titre Hokurios, le Seigneur, c'est en lien avec sa divinité.
Très bien. Donc, sa résurrection, ou bien sa mort momentanée, n'entame en rien.
Le caractère éternel de la parole.
Le caractère éternel
de la parole. Oui, tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour nous, hein.
Oui.
Il est fils de Dieu. Okay. Il est devenu homme pour que les hommes deviennent des fils et des filles de Dieu.
Okay.
Tout ce qu'il a fait. C'est pour cela, si vous prenez le temps et vous voulez faire des analyses, des écritures, ce qui est arrivé à Jésus, ces choses-là doivent nous arriver normalement. Ok, il est allé au baptême, nous devons aller au baptême, d'accord? Il était rempli du Saint-Esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il est revenu et il est revêtu de la puissance d'en haut, n'est-ce pas? Et il a prêché, il a fait l'œuvre et il nous a dit, attendez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Tu vois, revêtu. Dans Acte 1, il va dire, vous serez rempli du Saint-Esprit, vous serez baptisé. Tu vois, baptisé, rempli. Donc, et puis, revêtu. Quand tu fais une comparaison, tu vas voir de façon infinicentésimale ce qui est arrivé à Christ. Nous goûtons à ça d'une certaine manière. D'accord? Il l'a fait pour nous. C'est pas pour lui. Il n'a pas besoin de venir mourir hein, comme ça parce qu'il veut plus. Non, c'est pour nous. Et pour que nous puissions maintenant avoir en partage ce qu'il offre. C'est pour cela que Paul a si bien dit, il a si bien dit en disant, Dieu a mis en évidence par l'évangile la vie et l'immortalité. La vie et l'immortalité. Donc quand quelqu'un naît de nouveau, l'œuvre commence dans cette personne. La vie de Dieu rentre dans la personne. Et si elle se laisse à Dieu, jusqu'à la fin, l'immortalité devient manifeste. Soit par la résurrection au moment de l'enlèvement, ou bien par la transformation instantanée au moment de l'enlèvement, pour ceux qui seront vivants quand le Seigneur reviendra.
Ce qui demeure et qui demeure.
Nous revenons dans cette émission et nous poursuivons avec les commentaires de cette mélodie, cette chanson. Même si Jésus est ressuscité, nous avons vu par là qu'il a goûté à la mort. Alors, l'autre torrent, pourquoi affirmer qu'il demeure et ne meurt, vais-je dire, et ne meurt jamais?
Oui, mais Jésus a goûté à la mort comme victime expiatoire.
D'accord.
Et il a pris notre place. Et tout ce que l'Ancien Testament nous a montré, le point culminant, c'est dans la personne de Jésus. Les sacrifices d'animaux, tout ça là, c'est dans la personne de Jésus. Et quand vous lisez le livre de Lévitique, vous allez voir le sérieux avec lequel on doit s'approcher de Dieu. C'est-à-dire, Dieu donnait au peuple d'entrevoir un peu le sérieux avec lequel on doit s'approcher de lui. Mmh. Et quand il a donné à Moïse de construire le tabernacle selon d'après le modèle qu'il lui a montré au ciel, et qu'il a donné des instructions fermes sur comment procéder pour venir devant lui, c'est juste pour nous dire que, écoutez, je suis pas comme les autres, hein, pas comme Moloch, Astarté, les divinités, pas, non, ça ici là c'est autre chose carrément. Ah, et c'est un Dieu juste. Et donc là, Jésus a accepté, le Seigneur, il a accepté prendre notre place pour pouvoir satisfaire la justice de Dieu. D'accord? Et donc, c'est pour cela qu'il est mort. D'ailleurs, c'est pour cela que dans Jean chapitre 12, le verset 27, il dit « Maintenant, mon âme est troublée. » Parce qu'il sentait la mort s'approcher. « Mon âme est troublée. » Et que dirais-je? « Père, délivre-moi de cette heure. Est-ce que je dois lui demander de me délivrer, que je n'aille pas à la croix ?» Il dit « Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Donc, il savait ce qu'il allait faire. Et c'est l'apôtre Paul, parmi tous les apôtres, qui a pu établir le lien entre ce qui est arrivé à Christ. Et ça, par rapport à nous, Romains chapitre 6, verset 8 dit, « Or, si nous sommes morts avec Christ, » quelqu'un m'a dit, mais attention, comment mort avec lui? C'est lui seul qui était allé à la croix, non? Mais Paul est en train d'établir la corrélation qui existe entre tout ce que Christ a fait et nous, et notre salut, et notre rédemption. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. D'accord? Il ne connaîtra plus jamais la mort. D'accord? Et quand il est revenu à la vie, le corps qu'il a maintenant, ce corps est différent du corps qu'il avait avant. Hein? Parce qu'il s'est vidé de tout son sang là, à la croix. Il s'est vidé entièrement. Et la vie, c'est la vie de Dieu maintenant qui... je ne sais pas comment vous expliquer la chose. C'est la raison pour laquelle, quand la trompette va sonner, on va revertir l'immortalité. Cette même transformation-là, on va l'expérimenter. Il n'y aura plus de sang dans notre corps. D'accord? Ce corps-là ne sera plus ce que... Physiquement, quand tu vois, tu vas penser que c'est la même chose. Mais non, ce sera... La gloire va remplacer le sang et tout le reste. Donc ici, il est dit, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Quand il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. C'est pour nous. Il n'est pas un pécheur, c'est pour nous les pécheurs. Et donc, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc, il est revenu à la vie pour révéler la nouvelle humanité. C'est ça le projet de Dieu, la nouvelle humanité. C'était ça le projet que Dieu avait en vue en Adam quand Adam a échoué. D'accord? Le plan que Dieu avait pour Adam n'était pas entièrement terminé hein, quand la chute est intervenue. Maintenant, Christ est venu maintenant pour réparer tout ça là. Et dans Romains chapitre 8, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que quand nous allons revêtir l'immortalité et que la vie de Dieu à 100% sera en train d'agir en nous, là, la création attend ce glorieux jour-là. Parce que la création elle-même aussi est tombée dans une sorte de décrépitude à cause de ce que Adam a fait.
D'accord.
Donc tu vois, et ici là, c'est ce verset que certains ont pioché, et comme d'habitude, on enseigne une fausse doctrine, la révélation des fils de Dieu, un frère a acheté un véhicule, deuxième main du port, c'est la révélation des fils de Dieu, vous n'avez rien compris. Ça n'a rien à voir avec l'achat de véhicule, deuxième main, tout ça là, non. Il parle de ce que Christ a fait, la manifestation de cette œuvre glorieuse-là, lorsque nous allons revêtir l'immortalité. Donc, c'est de cela qu'il est question ici, dans sa résurrection. C'est pour nous, et là, certains de ceux d'entre nous qui sont déjà, ceux qui sont déjà morts, quand la trompette va sonner, ils vont revêtir l'immortalité. Ceux d'entre nous qui sommes vivants, quand la trompette va sonner, on va revêtir l'immortalité. Donc, d'accord. C'est de cela qu'il est question. Tout cela, il a fait pour nous.
Très bien. Le dernier couplet, le ciel et la terre passeront, ouais, mais ces paroles ne passeront jamais. Est-ce vrai que
oui,
le ciel et la terre passeront
bien sûr,
et ces paroles ne passeront jamais?
Oui, bien sûr. Il y a plein de gens qui, qui essaie de remettre en cause. J'ai rencontré un monsieur qui est supposé être un chrétien qui me dit ah ben tu sais la Bible dit je lui ai dit que le ciel et la terre passeront mais les paroles de Dieu ben il dit non que si Jésus était vivant il allait corriger certaines des choses. Il a dit tu n'as rien compris, tu ne sais pas qui il est.
Il allait corriger le
certains de ses propos.
Il allait revenir sur ses propos.
Tu sais il y a des gens qui circulent comme ça dans les couloirs de je ne sais quel coin là qui donnent l'impression qu'ils sont des chrétiens et ils n'ont pas expérimenté Christ. Quand tu expérimentes Christ, il y a des choses que tu ne peux pas dire à son sujet. Non. Pourquoi? Ce que Jésus a dit là, quand on le place dans le contexte, quand il parlait de des événements des derniers temps et autres, quand il a dit, à l'époque, les gens me disent, mais comment ces choses vont se passer? Ça se passe actuellement. D'accord? Là, je prends, premièrement, il avait annoncé que le temple de Jérusalem sera rasé complètement.
À l'époque.
Oui, quand il a dit, personne ne pouvait imaginer. En l'an 70, cela s'est passé. Quand par exemple, Marc, chapitre 13, verset 2, Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Luc 19, 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, parlant de Jérusalem. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est pour cela qu'il a pleuré sur la ville de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Parce qu'il voyait. D'accord? Il voyait le présent, l'instant là, et puis ce qui va advenir. Et depuis ce temps jusqu'à maintenant là, c'est maintenant que les Juifs veulent reconstruire le troisième temple. Donc ils s'activent à reconstruire le troisième temple. Alors que dans le programme de Dieu, le temple dont Dieu parle maintenant, c'est nous. C'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. D'accord. Alors, donc tu vois, quand il a dit ça, il dit, Luc 21, verset 16, les jours viendront où de ce que vous voyez ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversé. C'est pour cela que justement, les pierres ont été enlevées, et c'est pour cela que les musulmans ont érigé leur bâtiment sur l'emplacement. Si les pierres étaient là, ils pourront pas faire.
La mosquée.
Et oui, bien sûr. D'accord. Et maintenant, ensuite, il va dire maintenant que pour ce qui concerne la fin des temps, il y aura la séduction, il y aura des guerres, des bruits de guerre, des nations vont se liguer contre des nations, des royaumes contre des nations, contre des royaumes, des famines, des tremblements de terre. Aujourd'hui, on est en train de parler de quoi? De tremblements de terre qui a eu lieu
en Turquie et en Syrie.
Oui, bien sûr, on en parle.
Oui.
Mais il y a plusieurs qui se passent un peu partout. Et ce n'est pas encore fini, parce qu'il y aura d'autres aussi qui vont arriver. Il parle de persécution, d'apostasie, de trahison entre les chrétiens, de haine, de faux prophètes, de faux Christ, de l'iniquité qui va battre son plein, et de l'insouciance généralisée. Parce que là, il avait dit, ce qui était arrivé au temps de Noé, les gens étaient insouciants. D'accord. Aujourd'hui, les gens sont insouciants. Et en plus de ce qu'il a dit directement, plus tard, l'Esprit de Dieu va parler par les apôtres aussi. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc ce que Paul a dit là, c'est Jésus qui l'a dit au Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'a dit à Paul et aux autres apôtres. Donc, là, eux aussi ont parlé d'abandon de la foi, doctrine de démons, égoïsme, cupidité, des gens qui sont des fanfarons, des hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, tout cela. Donc il dit, vous allez voir qu'ils ont l'apparence de la piété, ça veut dire que des gens seront des hypocrites religieux. À un niveau très élevé, peut-être que le mot n'existe pas, mais pour eux, ce n'est pas hypocrite, mais ils sont hypercrites. C'est-à-dire que si Dieu ne te donne pas le discernement, tu ne sauras pas que la personne là est un faux. Et ça, c'est le signe de la fin des temps. Donc, ce que Jésus a dit est en train de s'accomplir à la lettre
sous nos yeux. Et il a même dit que nous serons insouciants. Là, je peux me hasarder à poser cette question. Quand nous avons appris qu'il y a eu ce tremblement de terre en Syrie
et en Turquie, oui.
Qui parmi nous a eu le réflexe de prier pour qu'on puisse sauver les survivants?
Ah oui, c'est vrai. Hein.
D'accord?
Ah oui, oui, oui.
Parce que ça ne s'est pas passé chez nous.
Oui, oui, oui.
On est au centre de la France qui veut dire que
c'est concerné.
Oui,
c'est
chez eux là-bas.
Oui,
ça m'est venu à l'esprit. Et j'ai commencé par prier du Dieu. Oui. Ça pouvait être aussi nous. Hein.
Oui, mais on n'est pas dans une zone sismique. Hein.
Jésus n'a pas dit que c'est dans les zones sismiques. Tu oublies qu'à côté au Ghana, tu sais qu'ils ont eu une faille là.
Ah bon?
Ah ben oui.
Donc ça peut nous arriver.
Ah ben oui, bien sûr.
Aïe, aïe, aïe.
Personne n'est... Et actuellement, les scientifiques découvrent que la Terre est en train d'avoir un mouvement un peu bizarre. Et d'autres même ont remarqué qu'ils ont même dit qu'ils ont cité les secondes là où la Terre est secouée d'un seul coup. Et ça reste secoué un peu, mais que c'est imperceptible. Et que les pôles sont en train de changer de position.
Waouh.
Ces choses-là, l'autre
Laurent, on a combien péché alors? On ne priant pas pour ces gens,
c'est
une ignorance,
oui,
de l'insouciance de notre part.
Oui, parce que c'est pas ça, cela ne nous est pas arrivé.
Oui,
hier, j'ai appris que quand on a utilisé des appareils, là, on a détecté des gens qui sont encore en vie sous les décombres, pour parvenir jusqu'à eux. Et là, moi, je me suis résolu, dit, il y a encore des gens en vie. Il faut continuer à prier. On doit prier.
Ah ouais.
Mes frères et sœurs, vous voyez ce qu'on est devenu, non? C'est parce que cela ne nous est pas arrivé.
Oui,
oui. Oh, c'est les autres. Hein. Ah, ok, c'est dans les nouvelles.
D'accord. Merci. Merci d'avoir attiré notre attention, l'autre Laurent. Tu en as fini, non, l'autre Laurent?
En ce qui concerne l'accomplissement de la prophétie biblique, tout ce que Christ a dit va s'accomplir à la lettre. Rien ne va y échapper. Mais ça ne nous empêche pas. Même s'il y a des prophéties négatives dans la Bible, nous avons la responsabilité d'intercéder. D'accord? Depuis que cela s'est passé, je reviens là-dessus, depuis que cela s'est passé, dans les regroupements religieux, vous avez entendu quelqu'un dire, mes frères, prions, cela ne nous est pas arrivé.
Oui,
c'est aussi
vrai.
Un des signes de la fin des temps.
Okay.
Les gens seront insensibles.
Ah ouais, on a été insensibles, vraiment, l'autre Laurent. Que Dieu te bénisse, et que Dieu bénisse également tous ceux-là qui nous ont suivis. On va s'arrêter là pour ce jour. Ce qui demeure, c'est la parole de Dieu. On écoute la chanson et on se dit au revoir et à la semaine prochaine, si le Seigneur tardait à revenir. Bye bye et bonne condition d'écoute pour vous.